RFI, 8h42 à Paris et tout de suite le journal des sports. Avec vous, Christophe Diremzian, le football et l'affiche du jour en première ligue. Manchester City accueille Chelsea pour la 23e journée. Peut-être l'occasion d'une première apparition de la nouvelle recrue égyptienne des Citizens.
Omar Marmouche, l'attaquant de 25 ans, transféré cette semaine de Francfort, moyennant 72 millions d'euros, très attendu pour relancer les quadruples tenants du titre. En très petite forme en championnat et toujours pas assuré de poursuivre la Ligue des Champions dans quelques semaines après leur défaite cette semaine au Paris Saint-Germain. Omar Marmouche arrive de Bundesliga avec des statistiques élogieuses, 20 buts et 14 passes décisives depuis le début de la saison. Il est surtout impatient d'entamer ce nouveau chapitre.
I'm really excited. I can't wait.
Je suis très excité, j'ai hâte de faire mes débuts sur le terrain. Je sors de deux très bonnes saisons, mais c'est juste un début pour moi. Ici, je vais travailler avec Pep Guardiola. Il m'a recruté et j'en suis très honoré. C'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Un entraîneur qui sait faire progresser ses joueurs. J'ai beaucoup à apprendre de lui, mais aussi d'Erling Haaland, mon nouveau partenaire d'attaque. C'est une machine à but. J'espère que je lui donnerai beaucoup de passes décisives et qu'on fera une bonne paire. Tous les deux.
Like you said, and hopefully we will enjoy playing together.
Omar Marmouche, nouveau pensionnaire de Manchester City face à Chelsea à partir de 17h30, temps universel. En Ligue 1, l'ouverture de la 19e journée hier avec un nul un partout entre Auxerre et Saint-Etienne. Ouverture du score bourguignonne signée de l'Ivoirien Ahmed Traoré. La Ligue 1, Wandy Delors est pressenti pour faire son retour. L'attaquant international algérien de 33 ans, actuellement au Mouloudia d'Alger, est en effet dans la liste des possibles recrues de Montpellier, où il a déjà joué de 2018 à 2021. Le club héraultais, bon dernier au classement, cherche à pallier le départ imminent du Nigérian Accor Adams au FC Séville.
Le handball et les Égyptiens aux portes des quarts de finale du Mondial 2025.
C'est comme si c'était fait, ou presque, pour les champions d'Afrique, vainqueurs hier à Zagreb de la Slovénie, d'un cheveu 26-25 pour leur deuxième match du tour principal. Ce succès les maintient à la deuxième place qualificative de leur groupe derrière la Croatie et devant l'Islande, groupe très serré, les trois sélections citées étant égalité de points. A priori, le Cap-Vert, dernier adversaire demain des Pharaon pour cette phase est d'ores et déjà éliminé, ne contrariera pas le destin des Égyptiens et l'optimisme de leur ailier Mohamed Sanad, ravi d'avoir fait le plus dur en dominant les Slovènes.
Ça nous donne beaucoup de motivation, de soulagement et maintenant on peut dire on est qualifié, on attend pour savoir dans quelle position on finit, première ou deuxième et voilà.
Il y a quand même ce dernier match face au Cap-Vert, ce duel 100% africain.
Bien sûr, il y a tout le respect pour le Cap-Vert et on va jouer ce match pour gagner aussi. Hein.
Il y a une préférence dans la position de terminer premier. Au deuxième.
De toute façon, un quart de finale, c'est un quart de finale. Donc, dans tous les cas, contre qui tu joues, ça sera une grosse équipe. Bien sûr, tout le monde préfère peiner première, mais un quart de finale, c'est un quart de finale.
Mohamed,
tout peut se passer.
Mohamed Sanad avec Marco Martins. Aujourd'hui, la Tunisie en finit avec son tour principal en affrontant l'Allemagne, mais les Aigles sont déjà hors course.
Christophe Diremzian pour les sports. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquelroem.
Pourquoi donc les dirigeants congolais peinent-ils autant à mobiliser la communauté internationale, y compris l'Afrique, en faveur des sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, alors que la collusion entre Kigali et le M23 semble attestée par les Nations Unies ?
À l'évidence, aucun pays ne voudrait se brouiller avec Paul Kagame pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Non pas qu'il conteste la responsabilité du Rwanda dans cette rébellion, mais il se trouve que le dirigeant rwandais a acquis sur l'échiquier africain une envergure telle que nul n'ose l'embarrasser pour juste contenter les Congolais. Tous ont conscience que nous vivons une ère d'injustice auquel les États réagissent, non pas en fonction de la nature ou de la gravité des faits, mais en fonction du poids ou de l'importance de ceux qui les commettent ou les subissent. Plutôt que de s'agacer de l'indifférence bienveillante de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, Félix Tshisekedi devrait peut-être convaincre son peuple de ce que le chemin de l'honneur pour les Congolais est de défendre leur patrie. Au regard des enjeux, les Congolais seraient bien naïfs de croire que des sanctions suffiraient à dissuader Paul Kagame de soutenir le M23, que le ministre congolais de la communication lui-même qualifie de pantin.
Mais comment combattre un M23 dont les forces semblent plus aguerries que l'armée congolaise ?
Peut-être en redoublant d'efforts, de détermination et de sérieux, que le Rwanda, pays de 14 millions d'habitants, tienne en respect la RDC et ses 102 millions d'âmes est une anomalie, et que les rebelles du M23, même soutenus par les quelques 33 000 hommes de l'armée rwandaise, parviennent à mettre en difficulté l'armée de RDC et ses 134 000 hommes, est une autre preuve des insuffisances d'un leadership systématiquement défaillant, dont Félix Tshisekedi n'est que l'impuissant héritier. Mobutu Sese Seko ne se souciait que de sa sécurité personnelle et sa tristement célèbre division spéciale présidentielle, plus prompte à massacrer les étudiants sans défense qu'à défendre la patrie, a été incapable de lui sauver la mise lorsqu'en 1997, Laurent Désiré Kabila, porté par les troupes rwandaises et ougandaises, l'a renversé. Mais cette chute de Mobutu partait d'une faute politique. Comme partout où des nationaux vont chercher des mercenaires ou des armées étrangères pour conquérir le pouvoir ou le conserver. D'ailleurs, lorsque, n'en pouvant plus de la tutelle de ses parrains rwandais ou ougandais, Kabila a voulu s'en émanciper, il a eu droit à une suite de petites guerres, un assassinat, puis des générations spontanées de rébellion dont le M23 n'est que l'ultime succédané. Et chaque fois, les dirigeants ont appelé au secours des voisins qui se sont révélés être de gloutons prédateurs, trop heureux d'avoir table ouverte au festin du sous-sol congolais.
N'est-ce pas un peu cruel, Jean-Baptiste, de suggérer que les prédateurs ont été conviés par les Congolais eux-mêmes ?
Toute l'Afrique crierait à l'impérialisme si des Chinois, des Français ou des Américains s'introduisaient dans tel pays africain pour extraire les minerais de son sous-sol sans autre forme de procès. Que l'Afrique se mure dans le silence pendant que d'autres nations africaines pillent impunément la RDC scandalise d'autant que d'authentiques chantres de la souveraineté africaine justifieront leur coupable cupidité par l'incapacité des leaders congolais à faire le bonheur de leur peuple en dépit de toutes ses richesses. En RDC, les guerres sont aussi juteuses pour les prédateurs qu'elles sont sanglantes pour le peuple. Et la fâcheuse tendance de nombre de dirigeants politiques congolais à confisquer personnellement une part de la richesse nationale n'est au fond qu'une autre guerre des politiciens contre leur propre peuple. D'où la perplexité des Congolais lorsqu'ils entendent ces mêmes dirigeants dénoncer le pillage de leur richesse par tel ou tel voisin. Pour convaincre de la sincérité de leur révolte, il ne reste plus à ces politiciens qu'un sursaut de probité dans la gestion de la part qui échappe aux étrangers. Ainsi, leurs concitoyens pourraient un jour dire que les prédateurs nationaux, eux au moins, savaient voler avec empathie.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et chaque samedi sur RFI Menace sur l'information, vous faites entendre les voix des journalistes menacés, entravés dans l'exercice de leur métier et leur liberté d'informer. Cap sur le Cameroun ce matin, 130e pays sur 180 au classement de Reporters sans frontières, qui le décrit comme l'un des pays les plus dangereux d'Afrique pour les journalistes. On se souvient de la mort de Martinez Zogo il y a maintenant 2 ans, mais les journalistes de médias indépendants ne sont pas les seuls touchés, comme le montre l'exemple de Lynn René Batonguet, journaliste à la Cameroun Radio-Télévision, un média d'État qui suit la ligne du pouvoir. Elle n'en a pas moins été arrêtée arbitrairement et menacée en 2020. Igor Strauss.
8 novembre 2020, Lynn René Batonguet est en reportage dans la localité de Tête d'Éléphant, en pleine zone forestière, à l'est du Cameroun. Lettre de mission en poche, elle réalise un reportage sur les bienfaits de la forêt pour les populations locales, quand tout à coup...
Le commandant de la brigade est venu vers nous et il nous a dit, écoute, le préfet a demandé que je vienne vous arrêter. Je lui ai demandé quels étaient les faits qu'on me reprochait. Il a dit qu'il n'en savait pas grand-chose lui-même et il fallait donc que j'aille me présenter au bureau du commandant de compagnie.
Mais au bureau du commandant, toujours pas de motif. Alerté, des collègues journalistes et des défenseurs des droits s'indignent sur les réseaux sociaux de cette arrestation arbitraire. Mise sous pression, les autorités finissent par lui signifier le motif de son arrestation.
Le préfet, en fait, il pensait que moi, je partais pour autre chose parce qu'il était assez impliqué quand même dans l'exploitation illégale des forêts camerounaises.
Lynn René Batonguet comprend vite qu'elle n'est pas en sécurité.
C'est clair que quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on a peur. Et puis, vous savez, quand de gros intérêts sont mis en jeu, ils sont prêts à tout. parce que les recettes issues de l'exploitation forestière sont énormes. C'est à coût de milliards d'euros.
Libérée après deux jours, Lynn René continue d'être victime d'actes malveillants.
J'étais constamment menacée, constamment visitée par des bandits chez moi. Je ne comprenais pas quoi. À un moment, je me suis demandé, est-ce que tout ça n'est pas lié?
Des menaces exacerbées, selon elle, par le fait d'être une femme.
Quand c'est des confrères hommes, on se dit non, ils ont un peu plus de couilles, ils ont un peu plus de courage, donc ils ne peuvent pas. Par contre, quand on voit une femme, on la menace beaucoup plus. Et c'est ça souvent la difficulté avec les femmes journalistes qui se trouvent dans des secteurs à risque. Parce que le secteur environnement est un secteur à risque dans nos pays et donc on reçoit beaucoup de menaces.
Après un autre reportage sur l'exploitation d'une carrière près de Yaoundé, Lynn René Batongué est convoquée par sa direction.
Mon rédacteur en chef de l'époque m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, Lynn, je viens de recevoir plein de coups de fil menaçants à propos. Laisse tomber cette enquête. Tu as des enfants, tu ne vas pas mettre et ta vie et la vie de tes enfants en danger, laisse tomber, je t'ai dit. J'ai dit, ok, j'ai entendu, et j'ai laissé tomber la série.
Les menaces et les pressions, une façon efficace de faire taire les journalistes jusqu'au jour où ils osent témoigner.
Igor Strauss pour Menaces sur l'information. Que nous évoquent les mots? Comment résonnent-ils en nous? Comme chaque samedi, avant de nous dire au revoir, place à Lucie Wootlou dans RFI Matin. Une rencontre chaque semaine avec les amoureux de la langue française et leurs mots fétiches. C'est un mot, une histoire.
Je trouve que c'est un mot très riche qui a quand même aussi sa part de violence. Ce qu'il connote d'abord comme sonorité et comme image, je trouve qu'effectivement ça pourrait être le début d'un roman.
C'est la marraine de la 9e édition des Nuits de la Lecture. Maëlys de Kerangal a écrit de nombreux romans, parmi lesquels Naissance d'un pont ou encore Réparer les vivants. Le dernier, Jour de ressac, se déroule comme c'est souvent le cas dans son œuvre dans la ville du Havre, une ville où elle a grandi. Fille et petite fille de marin au long cours, elle a nourri tout un imaginaire autour de la mer et pour cet épisode, elle a choisi de me parler d'un mot qui fasse écho à ses lectures d'enfance.
Un mot, une histoire, Lucie Wootlou.
Moi, j'avais envie de vous parler du mot sirène. D'abord parce que je pense que c'est un mot qui veut dire plusieurs choses et plusieurs choses intéressantes. Et cette espèce de polysémie, je la trouve riche. C'est évidemment le nom d'une créature fabuleuse, mais c'est aussi le nom d'un bruit qui annonce un danger, ou en tout cas qui sonne comme une alerte. Et par ailleurs, il y a cette idée du chant des sirènes qui est un peu comme un piège. C'est aussi un aperçu sur une histoire mythologique. Enfin, je trouve que c'est un mot très riche qui a quand même aussi sa part de violence.
Est-ce que ce sont des créatures qui ont bercé votre enfance, puisqu'on sait que vous venez du Havre?
Oui, c'est aussi pour ça. Il se trouve que c'est une créature, la sirène, qui est très, très importante en plus pour moi, parce que, en dehors du fait que j'ai vécu en bord de mer, dans une famille où elle est très liée à la question de la navigation, les contes d'Andersen ont été très centraux quand j'étais petite. Et c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu et relu. Et cette histoire de la petite sirène m'a très longtemps fascinée. Avec sa nature évidemment aquatique, inquiétante, des mondes sous-marins, etc. C'est-à-dire qu'Andersen, il y a une étrangeté. Et j'avais senti une forme peut-être de promotion que l'on puisse m'offrir à lire des histoires plus complexes.
Comment est-ce que vous pourriez décrire ce mot, sirène?
Par exemple, moi je le vois plutôt d'un vert bleuté et jaune également. Mais surtout, il commence par ce son très aigu que donne la première syllabe. Et au fond, le E muet de la fin le prolonge. Je trouve que c'est un mot aussi qui contient sa portée et éventuellement sa puissance imaginaire avec ce début un peu sifflant. Et puis cette fin qui vibre avec une vibration plus longue et quelque chose qui se perd un peu dans l'atmosphère en fait. C'est un mot qui dans sa matérialité sonore, qui dans sa texture, nous invite quand même à tendre l'oreille en fait.
Selon le dictionnaire Le Robert, le mot sirène désigne un être fabuleux à tête et torse de femme avec un corps d'oiseau ou une queue de poisson qui passait pour attirer par la douceur de son chant les navigateurs sur les écueils. C'est aussi un puissant appareil sonore destiné à produire un signal.
C'était Un mot, une histoire.
Maïlys de Kerangal, marraine de la 9e édition des Nuits de la Lecture qui se déroule en France et dans le monde. Jusqu'à demain. Et bientôt 8h, en temps universel, RFI Matin se termine en musique, comme chaque jour, avec le grand retour d'Aya Nakamura. Vous la connaissez pour Dja Dja et Pookie, ces succès qui ont fait d'elle l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Elle revient donc sur le projet musical solidaire La Main sur le Cœur, avec un nouveau titre. Ça s'appelle Coucou, et c'est dans la sélection du mois d'RFI.
Sur le chemin de ma vie, je te vois. C'est bizarre comme y'a pas d'hasard. Comment tu guettes, on dirait le chitane. Yeah. J'sais pas comment faire, il m'a choqué. J'ai rien à donner, c'est compliqué. Cœur endommagé, j'suis bien fauché. Fauché. Coucou, coucou, toi. Tu veux yaga, yaga, beaucoup pas. Coucou, coucou, toi. Toi j'ai vu, tu peux d'être pour moi. Tu tombes à la tentation. Dégage, fais beaucoup. Ouais, beaucoup, bien. Yeah. Avec moi c'est les vacations. Dégage, fais beaucoup. Yeah, beaucoup. On va se dire les choses en vrai. En toi je vois tout, je te jure. Tu pourras pas m'empêcher de connaître toutes tes faiblesses. Te faire chavirer, je le fais. Sur toi, elle fait magique, ouais. Nakamura vient du bendo. Est-ce que toi, tu sais ce que je veux? Coucou, coucou, toi. Tu veux yaga, yaga, beaucoup pas. Coucou, coucou, toi. Quand j'ai vu, tu peux d'être pour moi. Tu tombes à la tentation. Dégage, fais beaucoup.
Le retour d'Aya Nakamura avec le titre Coucou pour refermer cette édition des RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Bonne journée sur RFI.
Oui, ça, c'est la tentation.
Le Centre Pompidou-Metz présente l'exposition Après la fin, carte pour un autre avenir, du 25 janvier au 1er septembre. Au programme, 40 artistes internationaux autour de récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes, traversés par l'histoire coloniale et post-coloniale. Après la fin, carte pour un autre avenir, à partir du 25 janvier. Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr. En partenariat avec RFI.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Les milieux économiques attendaient avec impatience les premières annonces du président Donald Trump. Quelles conséquences pour les Américains dans la lutte contre l'inflation, pour leurs voisins canadiens dans la guerre commerciale qui s'engage, pour les Européens et les Africains en recherche de collaboration? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.